What is this, Connor? Easy, old man. She's not hurt?
No.
Not wounded, sir.
Get it easy.
It's been a long time.
Yes, ma'am.
Mi conoscete?
Filomena. Proprio non mi ricordate.
Mais non, j'ai pas de fils. Pas besoin de fils.
Tous les vendredis sur Fréquence 7, qu'il soit 12h10 ou 17h10, c'est l'heure de retrouver Cinémascope avec autour de cette table nos spécialistes cinéma. Il y aura Cathy, que je salue, bonjour.
Bonjour.
Il y aura Olivier également, ici à ma gauche.
Bonjour. Oui, bonjour à toutes et à
tous. Et Claude à ma droite, bonjour.
Bonjour.
Et en technique, Sylvain, que l'on salue également, bonjour.
Salut.
J'ai oublié de faire de la gymnastique de bon matin, on ne l'avait pas prévenu qu'on allait lui donner la parole quelques instants. Alors, dans cette émission, nous allons parler du film des frères Dardenne, Tori et Lokita. Nous irons aussi faire un petit tour du côté du nouveau film de Cédric Jiménez, Novembre, même un petit grand tour d'ailleurs, pourquoi serait-il petit ? On en fera peut-être un plus petit du côté de Ticket to Paradise, la comédie romantique avec George Clooney et Julia Roberts. Oui. À voir absolument en VO, bien sûr, ça va de soi. Alors, on va s'arrêter pour commencer sur le tout premier film, Tori et Lokita, les frères Dardenne. C'était en avant-première au cinéma Le Navire et Claude y est allé, mais avant d'entendre Claude, on va écouter la bande-annonce, cette fois-ci, je n'oublie pas.
Lokita, réveille-toi. Lokita.
Oui, j'arrive.
T'es sûr que vous ne voulez pas manger avant de partir?
Non, ça va.
Toi, retour avant 2h.
Oui, oui.
Tu as dit que c'était dans cette école que tu avais rencontré ton petit frère.
Oui.
Il a été abandonné à sa naissance, tu l'avais jamais vu. Comment as-tu su que c'était lui?
Je vous jure que c'est ma sœur. Sans elle, j'étais mort. Pourquoi moi j'ai mes papiers et elle peut pas les avoir?
Je vous ai amené tous les deux jusqu'ici, tu dois payer.
Ma mère en a vraiment besoin.
Donne tes 100 euros à Justine.
T'inquiète, va, il y en a 10.
J'ai pas envie que tu deviennes un dealer et que t'arrêtes l'école. J'arrêterai pas.
Je t'ai dit que dès que j'aurai mes papiers, je ferai la formation d'aide ménagère.
Tu veux des faux papiers? Je te trouve direct une solution, maintenant tu discutes.
On pourra au moins se voir le dimanche?
Non.
Et comment on va faire pour envoyer de l'argent à notre maman?
C'est pas mes Sinclair, allez-y!
Comment je vais faire, moi, pour appeler mon frère?
Tais-toi, ferme la porte!
Chaque fois que tu dis je veux, tu reçois ça.
Arrête! Mais Tim, tu m'entends? Pourquoi moi et mon frère, on peut pas se parler au téléphone?
Elle est où, Lokita?
Faut pas jouer au malin.
Je joue pas au malin. Lokita!
On reste ensemble. C'est toujours comme ça qu'on s'en est sorti.
Tori et Lokita des frères Dardenne. La semaine dernière, on vous parlait des doubles palmés. Bien, en voici des doubles palmés, les frères Dardenne, avec entre autres Rosetta.
Rosetta et puis l'enfant ou le fils les confondent. Enfin, un des deux là, ouais.
Voilà. Donc on est en pleine recherche. Ouais. On se souvient plus de la deuxième palme d'or. Mais ce n'est pas grave. On est venu parler de Tori et Lokita que tu as vu, Claude, Olivier aussi.
Oui.
Mais Claude, tu vas peut-être nous glisser tranquillement dans ce long métrage, nouveau long métrage dont la presse est assez unanime.
Alors, Tori et Lokita, donc film Jean-Pierre et Luc Dardenne, autrement appelé les frères Dardenne. Donc, un enfant et une adolescente donc, qui ont fui leur pays d'Afrique et qui sont donc réfugiés dans la Belgique d'aujourd'hui. Donc, on suit leur pérégrination auprès des administrations, centres d'accueil et dans leur combine pour se procurer un peu d'argent, histoire de rembourser les passeurs et d'apporter des subsides à leur famille restée au pays. Alors seule, on va dire, la relation fusionnelle qui les unit leur permet de faire face aux difficultés de leur jeune existence. Alors disons-le tout de suite, c'est un film très réussi, hein, des frères Dardenne. C'est un film très fort. Alors le Godard avait l'habitude, en parlant des films engagés, de les séparer entre films politiques et films filmés politiquement. Là, pour moi, c'est vraiment un film politique ou un film social, comme vous voulez. Et Voilà, je pense que c'est une chance un peu inespérée de voir des films comme ça au cinéma. Et j'encourage vraiment tout le monde à retourner au cinéma, parce que n'oublions pas que le cinéma d'auteur, entre autres, est financé grâce à une taxe qui est prélevée sur chaque entrée et qui alimente le CNC. Donc c'est important d'aller au cinéma si on veut pouvoir continuer à voir des films pareils. Donc les frères Dardenne, en fait, conduisent, je pense, à un travail quasi de sociologue, en nous mettant en présence des phénomènes de notre société. Et puis, ce que je trouve super intéressant, c'est que c'est traité au niveau de la personne. C'est pas traité de façon macro, on dirait, ou statistique, comme tout ce qu'on peut entendre à la radio, voire etc. Là, on est vraiment au niveau de la personne. Et la forme qu'ils utilisent, donc le cinéma, on va dire, de type documentaire. Alors, depuis l'origine du cinéma, on a tendance à séparer le cinéma en deux. Mmh. Cinéma type Frères Lumière, cinéma documentaire, et le cinéma type Méliès, cinéma d'illusion ou de fiction, quoi. Là, donc, ils sont passés vraiment maîtres dans ce style de cinéma. Faut pas oublier qu'ils ont commencé, d'ailleurs, par le documentaire. Et depuis La Promesse, 96, qui les a fait connaître en France, donc un peu plus de 25 ans, ils sont vraiment dans, à la fois sur le fond et le forme, sur le langage cinématographique qui leur appartient vraiment. Bon, après, on avait des Ken Loach, etc., mais maintenant, voilà, on peut dire presque qu'ils sont les seuls à nous présenter ça. Et rien qu'à ce titre, je trouve qu'ils méritent vraiment notre respect, notre considération et respect reconnu par Cannes, puisqu'ils ont le prix du 75e anniversaire, enfin, 75e édition à Cannes, voilà, prix spécial, qui a été créé pour ça. Et je pense qu'on leur a donné, parce qu'ils ont eu tous les autres prix, hein, voilà, prix de la mise en scène, prix du scénario et notamment double palmé à Cannes.
Alors puis leurs acteurs aussi, Émilie Decaennes, Olivier Gourmet qui ont été.
Voilà. Et la spécificité donc du coup en plus donc du cinéma des frères Dardenne, c'est depuis donc 25 ans, c'est de travailler, essayer de comprendre la relation qui nous unit en fait, donc que ce soit le lien familial, le lien social. Alors on pense, puisqu'on a parlé de La Promesse entre le père et le fils, là, Olivier Gourmet, je crois que c'est un des tout premiers films de Jérémy Régnier, mais aussi donc Rosetta, Émilie Decaennes, donc la mère et la fille, etc., etc. Il parle d'adoption aussi dans L'Enfant, là, avec Jérémy Régnier, toujours. Et voilà, c'est ce travail constant. Alors, pour la première fois, ils ont les deux acteurs principaux, en fait, sont deux enfants et deux acteurs non professionnels. Et les frères Dardenne disent, en fait, que c'est super dur de travailler avec des enfants, parce que si on leur en dit trop, en fait, ben, les enfants vont se contenter d'imiter les adultes, en fait. Et là, il leur a laissé effectivement beaucoup de liberté. Et ça se sent notamment, enfin, vous verrez durant le film, les choses à la demande des enfants, les émotions passent beaucoup plus par leur regard, en fait, que par le côté tactile. Et ça, c'est flagrant dès l'affiche, puisqu'on les voit face à face, avec un regard assez pénétrant. Alors, il y a une chose importante, enfin, deux choses importantes, je dirais, dans le film. C'est d'abord une chanson. La Fiera del Est, là, donc popularisée en France par Angelo Branduardi. Vous savez, cette comptine, là, le chat mange la souris, le chien mange le chat, etc. Et en fait, il faut savoir qu'à l'origine, en fait, c'est une chanson juive que les Juifs d'Espagne chantaient pendant l'Inquisition. Et l'idée, c'était de se donner du courage et de conserver l'espoir en la terre d'Israël. Et donc, c'est en ce sens qu'ils ont utilisé cette chanson, mais pas que. Donc, vous verrez, elle a d'autres fonctions. Mais les frères Dardenne reconnaissent aussi que, évidemment, dans la chanson, le gros bouffe toujours le petit. Et c'est quand même, ça rend inexorable un peu certaines tragédies. Et je parle bien de tragédie parce qu'effectivement, tout au long du film et chaque plan, alors bon, voilà, je vais pas m'étendre sur la forme, hein, c'est parfait, quoi, les plans se succèdent, c'est grandiose. Mais dans tout le film, on se pose la question, mais pourquoi on facilite pas la régularisation finalement des sans-papiers plutôt que ben voilà d'être trouvé confronté à les tragédies qui suivent? Et enfin, dernier point, moi, il y a une scène aussi qui me semble assez exemplaire, c'est qu'à un moment donné, Lokita donc, va faire une démarche administrative pour obtenir ses papiers, et donc a subi le questionnaire d'une personne qu'on ne voit pas dans une administration. Et voilà, on a coutume de dire que notre personnalité se construisait dans le regard, dans le discours, pardon, qu'on tient aux autres et dans le regard éventuellement. Et du coup, les réfugiés sont amenés à tenir plusieurs discours en fonction de leur interlocuteur. Et du du coup, avec les troubles de la personnalité que ça peut entraîner. Et je me rappelle, pendant des rencontres des cinémas d'Europe là, sur un focus migrant, il y avait deux psychanalystes italiens qui travaillaient dans un centre, justement, où ils se retrouvaient face à des migrants qui étaient à la limite de la schizophrénie, justement, par rapport à ces différents types de discours. Donc, allez voir ce film. C'est un film qui est très fort. C'est un film de société. Et en plus, il est sur grand écran.
Olivier, veux-tu ajouter quelque chose ?
Évidemment, on ne peut être que d'accord avec Claude sur la qualité de la réalisation dans ce genre. Les critiques mettent beaucoup l'accent sur la précision avec laquelle les frères Dardenne filment la gestuelle technique là. Et effectivement, on voit deux enfants ou deux jeunes particulièrement adroits, particulièrement, on a un petit focus sur la culture du cannabis, par exemple, où là aussi, techniquement, on voit comment tout est organisé avec une grande précision, enfin, etc. Donc, effectivement, le film présente toutes ces beautés-là, c'est indéniable. D'un autre côté, je suis un peu gêné aux entournures. Alors, je voudrais pas être aussi méchant que Karl Marx, et puis aussi injuste, d'ailleurs, que lui, mais... Si vous voulez, j'ai pas pu m'empêcher. Vous voyez, Proudhon en 1846 avait publié un livre qui s'intitulait Philosophie de la misère, et Karl Marx l'année suivante, assez méchamment, lui avait répondu. Enfin, c'est plutôt la misère de la philosophie, en parlant de la doctrine de Proudhon. C'est assez injuste. Surtout que bon, enfin, évidemment, Karl Marx après a emporté le pompon en publiant le Manifeste communiste en 48. Donc, mais il y a un petit côté comme ça. Je veux dire, bon, le film après film, les Dardenne creuse le sillon du film politique, du film social, comme l'explique très bien Claude. En amassant avec un côté systématique toute espèce de récompense, en faisant amasser aussi des récompenses à leurs acteurs, que ce soit Marion Cotillard qui va quand même jusqu'à l'Oscar, Olivier Gourmet, Émilie Dequesne, on l'a dit. Quand on feuillette les critiques autour des prix reçus par les Dardenne, et à un moment donné, ça fait sourire parce que les critiques en viennent à souligner les années où ils n'ont pas été nommés ou pas récompensés, qui sont beaucoup plus rares que les années où ils ont obtenu quelque chose.
D'ailleurs, Almodovar avait dit « j'aurais pas de prix parce qu'il y a les Dardenne cette année ».
Voilà, c'est ça. Alors, moi, ça me gêne un tout petit peu aux entournures quand même, parce que, bon, si vous voulez, quand on entend les frères Dardenne déclarer « notre plus cher désir » et qu'à la fin du film, le spectateur et la spectatrice, ils respectent la parité, hein, qui auront ressenti une profonde empathie pour ces deux jeunes exilés et leur indéfectible amitié, éprouvent aussi un sentiment de révolte contre l'injustice qui règne dans nos sociétés. Alors les frères Dardenne, assurément, n'en sont pas victimes de ces injustices-là. Par contre, ils sont passés maîtres dans l'art de culpabiliser les nantis, un petit peu comme Östlund, par exemple, hein, qui crache allègrement dans la soupe de la société de consommation, mais qui lui aussi prend deux palmes d'or très tranquillement et crie de joie, au festival quand il reçoit sa deuxième palme. Alors, il y a un moment, moi j'aurais envie de demander peut-être un petit peu plus de cohérence dans les engagements, même si effectivement, quand on fait ce genre de remarques, on risque d'être éminemment soumis à la vindicte populaire qui ne tolère pas qu'on puisse dire quelque chose contre cet engagement en faveur des MENA, c'est-à-dire les mineurs étrangers non accompagnés.
Juste un point, Olivier, je crois que c'est François Héran, qui est professeur au Collège de France, qui a dit un truc assez fabuleux: il n'est pas besoin d'en être pour savoir ce qu'il en est. Donc je pense que ça va bien aux frères Dardenne. Je pense qu'ils ont tout à fait le droit, même s'ils font partie des nantis, de critiquer les nantis et de les alerter sur la situation.
Ça n'est pas forcément incompatible. Et puis les prix, c'est pas eux qui les demandent. Là, tu pousses un petit peu le bouchon, et c'est tant mieux s'ils les reçoivent. Ils disent pas non plus qu'ils sont exemplaires dans leur vie et que le cinéma qu'ils font, n'est pas. Bon, enfin, ils ont le droit de critiquer les travers de la société. société et la société sans être parfaitement
tout à fait
exemplaire. Non,
mais le c'est peut-être que j'ai été un petit peu soumis à l'influence des conditions dans lesquelles j'ai vu le film, puisque j'ai été le voir lors du ciné débat organisé par le MRAP. Et effectivement le public était choisi, hein, donc effectivement comme j'ai un esprit
convaincu
absolument et comme j'ai moi-même il m'est échu un esprit assez vif de contradiction, ben je peux pas m'empêcher, c'est comme un peu un eczéma si vous voulez, voilà. Bon, je suis désolé.
Bon bah puisqu'on parlait de nantis, on va y rester si tu veux bien Olivier avec Ticket to Paradise.
Absolument.
On pourrait faire ça avec un film qui met à l'honneur surtout un couple, George Clooney et Julia Roberts, ce Ticket to Paradise que tu as osé aller voir.
Absolument. par goût, je le dis en toute simplicité et
la contradiction.
Voilà, exactement. Quand tous les cinéphiles vont voir les Dardennes, moi, je vais voir une rom-com traditionnelle américaine avec tout ce qu'il faut de papier glacé, de star hollywoodienne, enfin, etc. Et je me régale. Oui, une rom-com, c'est dans la tradition de, je sais pas, un mariage, trois enterrements, enfin, etc. On est un petit peu dans ce truc-là. Donc, effectivement, on a...
Non, ça, c'est pas possible parce que... Ça, c'est américain et le reste, c'est anglais. Oui, alors, voilà. La comédie anglaise, c'est quand même au-dessus.
It's
so
British. George Clooney est so British, justement. Enfin, bon, toujours est-il, oui, on va pas se mentir, on a affaire à un pur produit. Rom-com, c'est effectivement un comédie romantique avec un film donc réalisé par Parker, Hall Parker, ce brave Hall Parker, n'est-ce pas, qui a fait ce film.
Tout le monde connaît.
Mais bien sûr, et qui a fait ce film, il le dit lui-même explicitement pour George Clooney et Julia Roberts, qui font du George Clooney et du Julia Roberts dans un décor d'agence de voyage, mais de haut niveau quand même. Hein. On est à Bali, on est au milieu des cérémonies traditionnelles. De l'île de Bali, enfin, etc. Alors, quoi dire, bah, que si on a un petit goût, un commencement de petit goût pour ce genre de cinéma, et puis une sorte d'amitié, comme j'ai moi-même, une amitié à distance, évidemment, pour George Clooney et Julia Roberts, qu'on a vu souvent au cinéma, tous les deux, dans les océans, enfin, etc. Bon, si on a un petit goût pour ça, on se passe un petit peu de crème en allant voir ce film, c'est pas plus que ça, bien sûr.
Alors moi, je voudrais remercier Olivier d'acheter un ticket de cinéma dont la taxe qui va être prélevée permettra de financer les films des frères Dardenne.
Comédie romantique artificielle, inexplicablement charmante. Ça te va bien, ça, comme résumé ?
Oui, c'est pas mal. Ouais, ouais.
Allez, on reste là-dessus. Alors j'ai oublié de vous stipuler tout de même que Tori et Lokita est au cinéma Le Navire actuellement. Vous pouvez aller voir ce film des frères Dardenne à 15h et 18h ou encore demain à 18h et 21h. Et en ce qui concerne le duo Clooney-Roberts, eh bien c'est aujourd'hui à 15h et 20h45, ou sinon demain aux trois séances, 14h45, 18h15 et 21h. Voilà, donc pour partir en voyage à Bali. Autre film, on revient à des choses plus sérieuses. Voici la bande-annonce pour vous mettre dans le bain de novembre.
Ouais.
Louise est en ligne avec la PP. Reste au bureau et tu regroupes tout le monde. Il y a une équipe au Stade de France et l'autre dans Paris. Ça a attiré Rubichat au Carillon, rue de la Fontaine au Roi.
Séverine, tu pars au Stade de France avec ton équipe.
Les terroristes sont entrés au Bataclan, en plein concert.
On est évidemment préparé pour ça. Mais ceux pour qui la charge émotionnelle est trop importante peuvent se mettre sur le côté. Je veux pas qu'on laisse place à nos émotions personnelles. Aux dernières informations, il y aurait deux terroristes en fuite dans Paris. Je veux que le moindre type qui a eu un comportement bizarre dans les dernières 24 heures soit en garde à vue.
Arrête-toi ! Lâchez-moi !
Faisiez quoi le soir du 13 novembre ?
Tout ce que je peux vous dire,
c'est que la main qui vous frappe. Elle va encore vous frapper.
J'ai reçu un coup de téléphone pour une autre livraison d'armes.
Tout est lié. C'est quoi son nom?
Personne ne le connaît, on n'a rien sur lui.
Comment vous l'avez récupéré, l'adresse?
Je l'ai suivi.
Vous avez travaillé en dehors de toute procédure.
Non mais reprends-toi là, rassemble-toi, moi j'ai besoin de toi.
Comment c'est possible que vous n'ayez rien? Ça fait 3 jours maintenant.
Je sais où sont les deux terroristes.
Il y a 2 semaines, nous parlions de Revoir Paris, ouais. Et aujourd'hui, nous allons parler de novembre, mais nous allons reparler juste après de Revoir Paris, parce qu'il est à l'affiche aussi des cinémas de Lussas et de Tueil, et il ira même jusqu'à Valgorge. Mais pour l'instant, restons avec ce film de Cédric Jiménez, Novembre, avec Jean Dujardin, Anaïs de Moustier, Sandrine Kiberlin, entre autres.
Entre autres, oui. Évidemment, c'est pas du tout le même film que Revoir Paris, on l'aura bien compris. Je dirais que pour ce film, on pourrait se placer à 2 points de vue. D'abord, regardez, évidemment, le film. Donc, Jiménez est un habitué, hein, Bac Nord, La French. Donc, c'est un habitué du policier, du thriller policier, du film historique en même temps, bien sûr, et puis du drame. Là, on est peut-être moins directement dans le drame, mais on s'y retrouve quand même à cause de l'histoire du témoin, hein, Samia, jouée par Lina Koudry. Très, très bien jouée, d'ailleurs, merveilleusement jouée par Lina Koudry. C'est celle qui va permettre, effectivement, de choper les terroristes en fuite. Donc, vous avez le film. Le film, donc, Jiménez sait faire ce cinéma-là. La photographie de Loire, il s'appelle Nicolas Loire, le gars qui a fait la photographie, de ne pas confondre avec le peintre baroque, naturellement. Une photographie, donc, très, très bonne, même peut-être un petit peu trop bonne, trop léchée peut-être, un montage magistral, une musique de Guillaume Roussel qui avait fait également la musique de Compromat il n'y a pas si longtemps, une musique industrielle qui accompagne très très bien les images, les acteurs, tu en as parlé, on a affaire à un collectif d'acteurs, du moins c'était la volonté de Jiménez, de ne pas avoir un premier rôle et des seconds rôles, mais de n'avoir que des rôles, quoi. Bon, alors, évidemment, difficile de pas voir la place imminente de Jean Dujardin, évidemment. Mais enfin, bon, il a tourné 21 jours sur 60, hein, il est pas non plus omniprésent. Et même s'il avait sa voiture avec chauffeur crédité au générique, ils se font quand même relativement dans la masse. On a donc un film extrêmement collectif. Comme a été effectivement collective l'action de la police antiterroriste au soir même des attentats. Le film se déroule donc du soir des attentats le 13 et sur une période de 5 jours, la traque des terroristes. Évidemment que la deuxième chose qui évidemment attire notre curiosité, c'est l'événement. Évidemment que comme film historique, je serais tenté de dire. Est-ce que finalement Jiménez il joue son rôle de ce que Hegel appellerait l'historien original? Alors qu'est-ce que l'historien original? Eh bien c'est l'histoire originale, c'est le premier moment où un document, un écrit, une image, un témoignage oral, etc. C'est le premier moment où un événement historique parvient à l'esprit, à nos représentations. Hein, ça va être la manière dont les poilus vont décrire la guerre dans le feu de Barbus ou dans les à l'Ouest rien de nouveau, enfin tous les grands films de, voilà, c'est ce moment-là où bon quelque chose s'est produit et puis est-ce que la personne qui en rend compte correctement ou pas. Et là il y a une vraie question qui rejoint évidemment la réalisation du film lui-même. Alors moi j'aurais envie de dire que le pari est globalement
réussi. Le hasard a fait que j'étais plongé par rapport au film La nuit du 12 dans le bouquin de Pauline Guéna sur la PJ. Pauline Guéna est un écrivain qui s'est immergé pendant un an dans la PJ de Versailles et qui par conséquent a été tâté un petit peu du terrain, c'est le cas de le dire. Et elle aussi a fait œuvre finalement d'historienne originale au même titre que le réalisateur de La nuit du 12, que je n'ai pas encore vu, mais ça ne saurait tarder. Et donc, moi, je crois que le pari est globalement réussi. Alors, on entend déjà la polémique apparaître. Est-ce que Jiménez s'est fait une fois de plus, alors moi, il faudrait qu'on m'explique si c'est vraiment une fois de plus, l'apologiste de la police. J'en suis pas quand même bien certain. On ne voit pas que les bons côtés de la police. On voit effectivement des interventions plus que musclé. On voit la parole de Samia, la parole faite à Samia de prendre soin d'elle, limite trahi. Donc, on voit effectivement un certain nombre d'agents de police avoir beaucoup, beaucoup de mal à conserver leur sang-froid. Bon, on aurait beaucoup de mal à moins, effectivement. Et donc, je crois qu'à part un univers technologique peut-être un petit peu trop léché si on compare avec la réalité, à part l'apparition d'un drone qui apparemment n'existait pas à l'époque des faits, on va dire que globalement on nous rend assez bien compte du vécu de l'événement. Hein, cet événement tout à fait exceptionnel fait partie de ces événements dont on dit qu'on se souvient où on était quand il a eu lieu, voilà, et qu'il y a un avant et un après cet événement. Bon, je crois qu'effectivement c'est un peu le cas quand même, bon, bien sûr de Charlie Hebdo, mais aussi des attentats du 13 novembre. Je pense que le film se hisse d'une certaine manière, non pas à la hauteur de l'événement, c'est pas possible, mais rend bien compte une chose qu'on va résumer rapidement, l'effet tunnel. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les téléphones sonnent dans toutes les brigades de police, toutes les équipes de police sont nombreuses hein, quand même. Y a 131 morts, il y a 475 blessés, des milliers de victimes collatérales. Toute cette flicaille hein, d'une certaine manière rentre dans le tunnel. C'est-à-dire que jusqu'à l'arrestation ou la destruction des terroristes, il n'y a plus d'autre vie que celle de la traque, quoi. Et je crois que Jiménez arrive, et ses acteurs, arrivent assez bien à rendre compte de cette situation exceptionnelle liée à un événement exceptionnel. Voilà.
Comme pour Revoir Paris, pas d'image à l'américaine sanglante, etc. Novembre.
D'ailleurs, c'est quelque chose qui est traité aussi dans La nuit du 12, d'une certaine façon, ce tunnel enfin, dans lequel ils s'engagent pour aller au bout de leur enquête. Et bon, c'est un peu différent dans La nuit du 12, mais enfin, en tout cas, on voit quel impact ça a sur eux.
Ouais. Pour nos auditeurs qui ne le savent pas, La nuit du 12...
C'est un film de Dominique Moll, et il sera à nouveau dans les Rencontres des cinémas d'Europe. Donc ceux qui n'ont pas pu le voir cet été quand il est sorti pourront se rattraper au mois de novembre.
Il sera à Tuile aussi le 16.
Mais il sera aussi à Tuile le 16 parce qu'effectivement, il y a une... tu as raison, tu as tout à fait raison d'en parler, Olivier. C'est moi qui oublie quelque chose d'important puisque nous avons travaillé avec la médiathèque de Tuile sur un principe dans le livre, un film.
Quel est un bon principe, je rappelle.
Qui est un très très bon concept. Et effectivement, ce sera, donc c'est le 16. Le 16.
Dimanche 16, 16h30.
Exactement. Ah, donc vous pouvez aussi venir, bien sûr, à Tuile voir le film et parler du livre dont tu...
Je parlais à l'instant.
Tu parlais à l'instant.
C'est excellent, vraiment très très bon. Ouais.
La nuit du 12. Alors, il y a d'autres choses qui se déroulent justement avec la Maison de l'Image, Cathy. C'est Revoir Paris qui sera proposé à trois reprises. Deux fois ce soir, à l'USAS comme à Tuile, salle de la Vesprade. Et on le retrouve aussi à Valgorge. Ça, ce sera mardi.
Mardi soir.
Revoir
ouais.
Paris. Oui, tu voulais peut-être en redire un mot de ce film dont tu n'as pas pu dire tout le bien que tu pensais il y a deux semaines.
Oui, exactement. Mais c'est vrai que les garçons en avaient très très bien parlé. C'est un film d'Alice Vinocourt qui est formidable. Il y a quelque chose de très touchant, évidemment, dans ce film, et une part d'elle, puisque son frère a vécu l'attentat du Bataclan, et que ça l'a énormément touchée, et qu'elle a eu besoin d'écrire un film là-dessus. Donc c'est inspiré, hein. Là, on est dans un film où il se passe un attentat, mais c'est... Voilà. Et c'est une femme qui va après décider d'enquêter, qui a cette mémoire... perdue et qui va enquêter sur ce qui s'est passé et ça va modifier complètement sa vie, et c'est magnifiquement interprété par Virginie Efira, et il y a Grégoire Collin, un acteur que j'aime beaucoup aussi. Oui, Benoît Magimel, mais je voulais parler de Grégoire Collin, qui a eu une espèce de comment dire, de... Comment on peut décrire ça ? Enfin, en tout cas, qui a été absent du cinéma français pendant plusieurs années et qui est un superbe acteur, et que nous avions retrouvé dernièrement dans un film dont j'ai oublié le titre, mais enfin bon, ça me reviendra. Et c'est très, très agréable de le voir à nouveau au cinéma, et notamment d'en revoir Paris.
J'avais envie d'ajouter, si c'est permis, que ce film, au-delà évidemment du traitement du cas particulier de l'héroïne et puis de l'attentat, prenait une dimension un peu universelle, parce qu'il nous faisait réfléchir à ce que pouvait être un traumatisme et un travail sur la mémoire. Je pense que et Virginie Efira, une fois de plus, comme dans Les Enfants des Autres, est absolument incroyable.
Voilà, Revoir Paris, Lussas Tuei, ce soir, 20h30. J'ai oublié de spécifier tout à l'heure les horaires aussi de novembre de Cédric Jiménez. C'est au Navire aujourd'hui à 15h et 21h, et demain aux 3 séances, 14h45, 18h15 et 20h45. Vous pouvez le voir aussi ce soir du côté du Vivarais à Priva, novembre, c'est à 18h30, et demain 15h30, 21h, et du côté de Ruons, il faudra attendre la semaine prochaine pour le Ciné 7. L'actualité de la Maison de l'Image, c'est aussi l'actualité du mois d'octobre. Le mois d'octobre, c'est le mois autour du combat contre le cancer du sein. Et justement, il y aura un ciné-débat à 20h30, ce même mardi 11 octobre.
Oui, au cinéma de Tuy à 20h30. Donc ça, c'est dans le cadre du mois d'octobre rose. Donc ça, c'est... Moi, je suis ravie qu'on ait pu travailler avec le docteur Julie Audigier, qui avait un projet d'envergure il y a un an même, un peu plus maintenant. Et qui faisait qu'elle, autour de la thématique du cancer du sein, faisait un croisement des arts, avec donc beaucoup de partenaires impliqués dans ce projet, et il en est sorti un documentaire notamment particulièrement sensible, et c'est ce documentaire que nous montrerons et dont nous parlerons le 11 octobre avec elle, et puis aussi normalement avec Sébastien Joanniez, qui a participé au film, qui est auteur, mais qui est auteur de ce film. La réalisatrice le présentera, elle, dans un autre département.
Et Fréquence 7 n'est pas peu fière d'avoir fait certaines prises de son ici, dans ce studio, qui sont utilisées dans ce très beau documentaire, Morcellement. Voilà, à découvrir mardi 20h30. Encore un peu d'actualité avec toujours ce festival, mais en tout cas ces différents rendez-vous autour de la lecture et du cinéma, comme le dimanche matin sur notre antenne à l'occasion d'un livre, un film.
Ouais, c'est une bonne émission.
Alors il y a des rencontres autour du livre c'est tant pis pour moi, je donne le bâton pour me faire battre. Il y a des rencontres autour du livre qui sont proposées jusqu'à la mi-octobre du côté de la communauté de communes, voilà, je veux dire Ardèche, Rhône, Couaron, et ainsi aujourd'hui au cinéma Le Regain Auteuil, vous pourrez suivre une lecture à 20h d'extrait du livre Le Cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates par membres des cercles de lecture.
Ça a été traité dans l'émission Un livre, un film. Je ne sais pas si on en a parlé de cette émission qui est de dimanche matin.
C'est dimanche matin. Oui,
voilà, c'est ça.
Et donc, vous allez pouvoir avoir quelques lectures à 20h et la projection en VO, bien entendu, du cercle littéraire de Guernesey de Mike Newell, paru en 2018.
Quatre mariages et un enterrement.
Oui, entre autres. Alors, ouais, voilà. Bon, le cercle littéraire de Guernesey n'a peut-être pas été un film très... réussi, qui restera dans les mémoires, si.
Il est bien, franchement, il est. Il est à voir aussi.
Je ne l'ai pas vu, mais j'avais jeté un œil sur les. Oui, en VO, bien sûr. À découvrir donc ce soir du côté du Teil à 20h30 avec cette séance lecture à 20h. Oui, Cathy.
Est-ce que je peux ajouter un autre événement dont on a. Voilà, entre ce soir et mardi soir. Là, c'est dans le cadre de la Semaine Bleue. On change de couleur. Oui. C'est en partenariat avec la Maison de la Vallée là, qu'on a travaillé sur une séance qui peut à la fois convenir aux jeunes publics et aux moins jeunes. Et il s'agit du film La Petite Bande de Pierre Salvadori. Pierre Salvadori, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup, qui j'espère peut-être pourra venir un jour aux Rencontres des Cinémas d'Europe, mais depuis son premier film que j'espère qu'on pourra montrer aussi, qui s'appelle Les Apprentis, qui était, il y a une écriture, c'est drôle, c'est très bien réalisé. Là, c'est La Petite Bande, c'est un film qui est à partir de 10 ans, qui peut être vu à partir de 10 ans, et ce sera dimanche à 16h avec un goûter.
Désolé. Ah, tu ailles, bien sûr. Désolé, j'avais oublié, tu vois, t'étais passé du 11 et j'avais oublié le 9 au passage. Allez, un dernier rendez-vous, ce sera du côté de Rue 11 au Ciné 7, une avant-première, Simone, le voyage du siècle est à découvrir ce dimanche à 16h, film d'Olivier Dahan, avec dans le rôle de Simone Veil, eh bien Elsa Zilberstein. Voilà, donc à découvrir si vous le souhaitez, en avant-première ce dimanche. 9 au Ciné 7 à Ruon, séance à 16h. Ce sera tout pour Cinémascope. Merci d'avoir été présent avec nous pour parler de ces trois films, notamment Tori et Lokita, novembre, et puis éventuellement Ticket to Paradise.
Why not?
Allez, juste le temps pour moi de faire comme d'habitude dans le cadre de l'Onde Curieuse qui, elle, est proposée les lundis, mardis et jeudis, c'est-à-dire de saluer les autres émissions qui vont avoir lieu d'ici quelques instants. À 13h, par exemple, vous aurez Regard d'ailleurs. À 15h, toujours le Telex sur l'antenne de Fréquence 7. Laissez vos messages pour qu'ils soient diffusés sur notre antenne. Une nouvelle formule pour les chroniques du Hérisson, la chronique de la Frappenard Ardèche, ce sera à partir de 16h30 aujourd'hui. C'est la toute première avec une nouvelle animatrice au micro, ce sera Lorraine. À 17h, vous retrouvez le triptyque des infos de la semaine de Vinso et de Cinémascope en rediffusion à partir de 17h10. Et puis en soirée, 19h, Marc et Éternel de la musique. 20h, un Wise World Music avec Nico qui en plus va nous offrir à partir de 21h, ça sera en complément de son émission, une spéciale autour d'une artiste qui a émerveillé nos animateurs, plus nos animateurs d'ailleurs que nos animatrices. C'est Eda Diaz qui était présente sur la scène de la salle Le Bourneau samedi dernier. Nico l'a rencontrée et il a toute la panoplie musicale d'Eda Diaz à vous faire découvrir ce soir. Et franchement, ça vaut la peine. C'est une artiste à suivre. Elle était sur la scène de la salle Le Bourneau la semaine dernière. Et on espère qu'on la retrouvera rapidement sur d'autres scènes, concerts. Eda Diaz, en tout cas, c'est ce soir à 21h dans Wide Wise World Music. Voilà, j'ai réussi à le dire. Ce sont les 3 W de Nico. Merci à tous les trois. Merci à Sylvain pour la technique. On se retrouve la semaine prochaine, 12h10, 17h10. Cinémascope. Bye bye.
Ciao, ciao.
Voilà. Alors, la caméra passe.